Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 29 juillet. Covid-19, le gouvernement dévoilera demain le plan de vaccination pour le mois d'août. Selon Zhang Heyong, la réouverture de la liaison téléphonique Nord-Sud traduit la volonté de leurs dirigeants. Économie, le bénéfice d'exploitation de Samsung Electronics en hausse de 54% au deuxième trimestre. Enfin, le nombre d'habitants en Corée du Sud en hausse de 50 000 en 2020, un chiffre historiquement bas. En 24 heures, le nombre de nouveaux patients du Covid-19 a atteint 1674, 1632 contaminations domestiques et 42 importées. Il s'agit d'un recul d'environ 200 par rapport à la veille où a été enregistré le plus grand nombre journalier de cas positifs depuis le début de la pandémie. C'est la 23e journée d'affilée que ce chiffre dépasse le seuil des 1000. 65% d'entre eux ont été recensés dans la région métropolitaine, 508 à Séoul, 460 dans la province de Gyeonggi et 94 à Incheon. Plus de 500 l'ont été dans le reste du pays pour la deuxième semaine de suite, y compris 90 dans la province de Gyeongsang du Sud, 80 à Busan et 69 à Daejeon. Quelques 400 individus, soit un patient testé positif sur 4 hier, ont reçu un test dans un centre de dépistage provisoire et 2 décès sont à déplorer, ce qui porte le nombre total de victimes à 2085. 285 malades se trouvent actuellement dans un état critique, soit presque le double d'il y a 3 semaines. Côté vaccination, maintenant, quelques 477 000 personnes ont reçu hier leur première dose de sérum, ce qui porte le nombre cumulé de primo-vaccinés à environ 18 382 000, soit 35,8% de la population. Et environ 7 018 000 individus ont achevé leur vaccination, ou 13,7% de l'ensemble. D'autre part, le gouvernement annoncera demain le plan de vaccination pour le mois d'août. Les personnes âgées de 18 à 49 ans pourront enfin en bénéficier et la première inoculation des lycéens de terminale et des enseignants de lycée, débutée le 19 juillet dernier, s'achèvera demain. Dossier intercoréen à présent. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Jang Heyong, a expliqué hier la portée du rétablissement des canaux de communication intercoréens survenus la veille après que Pyongyang les a coupés unilatéralement en juin 2020. Selon lui, cela montre bien la volonté des dirigeants des deux Corées de restaurer la confiance mutuelle et de faire avancer les relations bilatérales. Le chef de la diplomatie a tenu ses propos dans son discours inaugural prononcé lors d'un séminaire en visioconférence organisé par l'Institut des Affaires étrangères et de la Sécurité nationale. Dans la foulée, il a baptisé cette reconnexion Nord-Sud d'accord du 27 juillet en promettant de déployer tous ses efforts pour que celui-ci permette de renouer les échanges Séoul-Pyongyang et Pyongyang Washington. Selon Jang, la Corée du Nord semblerait se préparer à ouvrir la porte du dialogue et elle continue de respecter le moratoire sur les essais nucléaires et les tirs de missiles à longue portée, même après la rupture de son second sommet avec les États-Unis à Hanoï. Alors que les deux Corées ont rétabli leur liaison téléphonique en début de semaine, Séoul prévoit d'accélérer la mise en place d'un système de visioconférence intercoréen. D'après un responsable du ministère sud-coréen de la réunification, les deux côtés pouvaient renouer autrefois leur dialogue dès qu'ils rouvraient leurs canaux de communication, mais ils doivent faire face aujourd'hui aux contraintes liées à la crise du Covid-19. Il est donc indispensable d'aménager des infrastructures nécessaires. Dans cette optique, Séoul envisage de créer un dispositif de webinaire bilatéral avec Pyongyang afin d'assurer la réunion en distanciel. Le Sud ne devrait pas tarder à proposer officiellement au Nord de discuter d'une telle initiative et ce via les bureaux de liaison des deux pays. De fait, le ministère sud-coréen avait aménagé en avril dernier une salle de visioconférence au sein de son QG du dialogue intercoréen situé au cœur de Séoul avec un budget de 400 millions de won, soit 293 000 euros. L'infrastructure est donc techniquement prête au sud du 38e parallèle. Par ailleurs, afin de mieux anticiper, le ministère a d'ores et déjà élaboré un guide de gestion du village de la trêve de Panmunjom afin d'organiser des réunions en présentiel à l'époque du Covid-19. Ce mode d'emploi explique comment installer les stands de prévention et de contrôle sanitaire et de réaménager les tables en respectant la distanciation sociale. Les deux Corées sont parvenues tôt ce matin à rouvrir leur ligne téléphonique en mer de l'Est après avoir réglé les problèmes techniques. Pour rappel, les autorités militaires des deux parties ont rétabli mardi leur ligne de communication en mer Jaune, 13 mois après leur rupture, mais elles ont dû en reporter la réouverture officielle en mer de l'Est où la communication est coupée par intermittence à cause de soucis techniques tels que le dysfonctionnement de terminaux. Désormais, l'intégralité de la hotline militaire intercoréenne fonctionne normalement. Aujourd'hui, le Sud et le Nord ont échangé des informations sur les activités de leurs navires de pêche afin d'éviter toute échauffourée accidentelle en utilisant le réseau téléphonique de la zone côtière de l'Ouest. Par ailleurs, les bureaux de liaison des deux Corées ont assuré aujourd'hui leur communication matinale. Cependant, Pyongyang ne répondrait toujours pas à l'appel que Séoul lance régulièrement via le réseau international de communication de navire à navire. Selon un responsable de l'armée sud-coréenne, le régime maintient le silence radio sur sa hotline maritime depuis qu'il a coupé unilatéralement tous les canaux de communication transfrontaliers en juin 2020.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
À l'approche des manœuvres militaires conjointes Séoul-Washington prévues le mois prochain, le ministère sud-coréen de la Défense a fait savoir que les deux alliés poursuivaient actuellement leurs discussions pour en déterminer les modalités en tenant compte de la propagation du Covid-19 et des efforts diplomatiques destinés à installer une paix permanente dans la péninsule. Son porte-parole en a fait part aujourd'hui lors de son briefing régulier. Interrogé sur la possibilité de réduire l'ampleur de l'exercice ou de le suspendre suite au rétablissement de la ligne de communication intercoréenne. À la question de savoir si le Sud a proposé au Nord un dialogue militaire sur ses manœuvres, l'officiel sud-coréen a répondu par la négative. Économie à présent, Samsung Electronics a enregistré un bénéfice d'exploitation surprise au deuxième trimestre avec 12 570 milliards de won, soit environ 9,2 milliards d'euros. Il s'agit du plus haut niveau depuis le troisième trimestre 2018 et d'un bond de 54,26% en glissement annuel. Le chiffre d'affaires du géant sud-coréen de l'électronique a connu une augmentation de 20,2% à 63 670 milliards de won ou 46,7 milliards d'euros. Ainsi, il a franchi au premier semestre le seuil des 128 000 milliards de won, l'équivalent de 93,9 milliards d'euros, un record sur cette période. Cette belle performance s'explique notamment par les semi-conducteurs qui représentent plus de la moitié du bénéfice opérationnel. Les ventes de smartphones et d'appareils électroménagers ont également enregistré une hausse plus élevée qu'attendue. Alors que de plus en plus de crypto-monnaies voient leur cotation annulée, la perte des investisseurs se creuse peu à peu. L'un d'entre eux a récemment perdu 8 millions de won. Il déplore le fait d'être impuissant face à cette situation et de ne pas en avoir été informé. Le fait est que les plateformes d'échange de monnaies virtuelles sont en train de liquider les crypto-monnaies à bas crédit, alors qu'elles sont obligées d'effectuer une déclaration d'ici septembre prochain auprès des autorités financières pour obtenir une licence qui leur permettra de continuer à opérer. Elle juge par ailleurs que ces monnaies virtuelles pourraient être utilisées pour la manipulation des cours ou le blanchiment d'argent. Le problème, c'est que malgré de tels efforts, il n'est pas facile de créer des comptes bancaires avec son nom propre, indispensable pourtant pour faire une telle déclaration. En particulier, les petites et les moyennes plateformes qui doivent signer un nouveau contrat avec les banques éprouvent de grandes difficultés. À cet égard, un représentant du secteur, sous couvert d'anonymat, dénonce une procédure opaque et arbitraire qui permet à un nombre restreint de plateformes de se faire émettre des comptes bancaires. En dépit de cette situation, la Commission des services financiers a tranché qu'elle ne reporterait pas la date limite de déclaration. Le président du comité pour une réglementation autonome de l'association de blockchain de Corée, Lee Jong-gu, a affirmé que le gouvernement devrait laisser survivre les plateformes en estimant absurde de les priver de l'occasion d'obtenir une licence. Certaines plateformes jugeant impossible de remplir cette condition sont en train de fermer leurs portes. Cependant, la FCC affirme ne pas pouvoir intervenir à cause de l'absence de législation en la matière, comme ce sont les plateformes elles-mêmes qui décident de l'ajout ou du retrait des crypto-monnaies. À deux mois de la date butoir de la déclaration, le projet de loi concerné est toujours en délibération à l'Assemblée nationale. En 2020, la Corée du Sud comptait quelque 51 830 000 âmes, une augmentation de 50 000 en un an. Il s'agit de la progression la moins importante depuis l'établissement des statistiques démographiques. D'après le recensement démographique 2020 publié aujourd'hui par l'Institut national des statistiques, le nombre de Sud-Coréens résidant dans le pays a progressé de 130 000 pour s'établir à 50 130 000 alors que celui des étrangers est en recul de 80 000 en atteignant 1,7 millions. Ce phénomène, contraire à la récente évolution démographique, s'expliquerait par la propagation du Covid-19 qui a amené de nombreux ressortissants sud-coréens à regagner leur pays tout en décourageant l'afflux d'étrangers sur le sol sud-coréen.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
Et maintenant, Oh Ha-young nous rejoint pour les toutes dernières nouvelles sportives en provenance de Tokyo.
À Tokyo, comme hier, la récolte de médailles n'a pas été très fructueuse pour la Corée du Sud ce jeudi. Une seule breloque est venue s'ajouter au compteur en début de soirée et il est en argent. La journée n'a toutefois pas été avare en surprises. Elles nous viennent de deux judokas. Le premier, Cho Gu-ham, vient de monter sur la deuxième plus haute marche du podium dans la finale des moins 100 kg hommes qu'il opposait au japonais Aaron Wolf. Après un combat très disputé, il a été vaincu par Ippon dans le Golden Score, la prolongation à l'issue des 4 minutes réglementaires. Plus tôt dans l'après-midi, Cho a battu l'Allemand Karl Richard à Frey en quart de finale et le Portugais Jorge Fonseca en demi-finale. La deuxième surprise est signée Union Ji dans la catégorie des moins 78 kg femmes. Elle est parvenue à battre en quart de finale la Néerlandaise Fischer Steinhaus, numéro 5 mondial, avant d'échouer en demi-finale face à la Française Madeleine Malonga. La jeune femme de 27 ans s'est malheureusement inclinée au pied du podium dans le combat pour la médaille de bronze. Elle n'a pas fait le poids face à la Brésilienne Mayra Aguilar qui l'a battue par ippon. Une petite déception à présent de la part d'un nageur au fort potentiel. Hwang Seon-woo a échoué et accroché une médaille autour de son cou dans ces Jeux olympiques. Le prodige de la natation sud-coréenne est arrivé au 5e rang en 47 secondes 82 centièmes dans la finale du 100 mètres nage libre masculin qui s'est tenue ce matin au centre aquatique de Tokyo. L'héritier de Park Tae-won peut toutefois se consoler. Le lycéen de 18 ans a réalisé le meilleur résultat pour un Asiatique dans l'épreuve olympique du 100 mètres nage libre masculin depuis l'argent remporté par le japonais Hiroshi Suzuki au JO de Helsinki, c'était en 1952. Du côté des sports collectifs, saluons l'équipe féminine de volley-ball qui a fait un pas en avant vers les quarts de finale. Les volleyeuses emmenées par la vedette mondiale Kim Yong-gyang, porte-drapeau à la cérémonie d'ouverture, se sont imposées face à la République dominicaine au tie-break lors du troisième match de la poule A qui s'est déroulé cet après-midi à l'Arena Ryaki à Tokyo. Elles affronteront le Japon samedi. Avec au total 4 médailles d'or, 3 d'argent et 5 de bronze au compteur, la Corée du Sud termine la journée de jeudi, toujours à la 7e place du classement général. Une nouvelle inquiétante à présent. La pandémie de Covid-19 est en pleine résurgence au Japon. La ville hôte de l'événement a vu le nombre de cas positifs supplémentaires dépasser la barre des 3000 pour la seule journée de mercredi. C'est une première depuis que Tokyo a commencé à établir son bilan quotidien après la première découverte du coronavirus en janvier 2020. Les experts anticipaient un franchissement du seuil des 3000 début août. Finalement, ce scénario s'est réalisé plus tôt que prévu. La propagation du virus s'est accéléré dans tout le pays suite à l'apparition du variant Delta pour faire planer le spectre d'une cinquième vague de contamination. Ainsi, l'archipel a fait état de près de 10 000 nouveaux patients par jour du jamais vu. 3 préfectures voisines de Tokyo envisagent d'appeler le gouvernement central à réinstaurer l'état d'urgence sanitaire. Cependant, une telle mesure n'a pas eu les effets escomptés et n'a fait qu'entraîner une lassitude de la population. Dans ce contexte-là, les spécialistes mettent en garde contre un éventuel emballement de la situation. Mardi, le premier ministre Yoshihide Suga avait déjà coupé court à toute possibilité de suspension des JO. Ainsi, on ne peut que marcher sur des œufs. Et nous enchaînons avec un tout autre sujet. Au cours des 3 premiers jours après l'ouverture des JO, la Corée du Sud a enregistré une hausse de 1750% des usagers qui ont téléchargé l'application officielle olympique mise en service par le CIO par rapport à la semaine précédente. Selon App Eni, la société spécialisée dans l'analyse des applications mobiles, le pays du matin clair arrive ainsi au deuxième rang derrière la Chine qui occupe la tête. Par ailleurs, on peut constater une demande explosive pour les applications de streaming qui possèdent les droits de diffusion des épreuves olympiques. En Corée du Sud, Africa TV a connu une augmentation de 90% de téléchargements sur la même période. En Europe, les téléchargements de l'appli Eurosport ont grimpé de 1040%. D'après Epeni, les consommateurs sont nombreux à se tourner vers leurs appareils mobiles pour regarder les épreuves de leur choix et supporter leurs athlètes préférés, d'autant que les compétitions se déroulent sans public. Et avant de vous quitter, le compte à rebours est lancé pour les Jeux paralympiques qui se tiendront du 24 août au 5 septembre. Le Comité paralympique de Corée a organisé cet après-midi la cérémonie inaugurale de sa délégation qui participera à cette fête sportive planétaire. Aux Jeux paralympiques, la Corée du Sud va envoyer une délégation composée de 158 personnes, à savoir 86 sportifs et 72 membres de l'encadrement dans 14 disciplines. Elle s'est fixé l'objectif d'occuper la 20e place du classement général.
C'est la fin de ce journal qui vous était présenté aujourd'hui par Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous.